Et je vous propose de continuer dans Luc, chapitre 1, au verset 45. C'est là qu'on était arrêté. Luc, chapitre 1, verset 45. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront « Bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. » Parole de Marie, évidemment. Et un autre passage, dans Acte 16, « Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Jusque-là, les deux lectures. Je vous invite à la prière. Père éternel, comme j'ai l'habitude en face de ce texte, je demande ton aide. Et je te remercie pour ces textes qui ont traversé les siècles, qui sont arrivés jusqu'à nous. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre ton message qui a traversé 2000 ans et touché nos cœurs, et que nous puissions aussi les mettre en pratique. Seigneur, qu'à toi encore une fois revienne toute la gloire, et humblement, nous voulons nous prosterner devant toi pour t'écouter, nous mettre à tes pieds. Amen. Comme je le disais, nous sommes en présence de deux textes tout à fait différents, mais ce qui n'ont pas un point commun. Notre première lecture nous projette chez Élisabeth, la cousine de Marie, future mère de Jésus. Marie, divinement avertie de sa grossesse, part en hâte, rendre visite à Élisabeth, qui, elle aussi, entend un enfant qui se fera prénommer Jean, dit le Baptiste. Et alors, salutation, comme nous avons vu tout à l'heure, les deux mamans exultent de joie et Marie exprime la sienne par ce merveilleux, ce qu'on appelle le Magnificat, que nous venons de lire. Notre deuxième lecture nous projette plus ou moins 35 ans plus tard, au sein d'un cachot plongé dans le noir qui accueille Paul et Silas. Tout fraîchement condamné pour avoir troublé l'ordre public en libérant une femme de quelques démons, de quelques mauvais esprits. En prison, n'ayant rien à faire, ils se mirent à prier et chanter à haute voix, puisqu'il nous est dit que tout le monde entendait les chants. Et divinement libérés, ils ne se précipitent pas vers la sortie. Non. Ils prennent le temps de témoigner à toute la prison, de convertir le geôlier et de baptiser toute la famille. Ça, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez aller lire la suite chez vous. Ces deux passages nous plongent dans la vie de personnes, et j'ai marqué, qui ont été victimes de la volonté de Dieu. Élisabeth et Marie sont enceintes par la volonté de Dieu, malgré les grandes barrières humaines. La première est âgée et stérile. La deuxième est jeune et vierge. Ni l'une ni l'autre ne peuvent avoir d'enfants. Pourtant, tout va basculer. Tout va basculer d'un coup. Sous la direction du Père, le ciel va se mettre en branle. Deux messages vont partir, l'un donné par un ange à Zacharie, le papa de Jean, et l'autre transmis par l'ange Gabriel en personne directe à Marie. Nous n'en sommes évidemment qu'à l'annonce des événements qui va changer la face du monde. deux naissances et deux vies, Jean-Baptiste et Jésus, qui vont tous les deux annoncer la repentance en vue de l'établissement du royaume de Dieu, et tous deux mourront parce qu'ils se sont engagés à fond. Nos deux autres victimes de la volonté de Dieu, Paul et Silas, se retrouvent, eux, derrière les barreaux parce qu'ils ont fait le bien autour d'eux, en annonçant justement l'établissement de ce royaume de Dieu et en prouvant aussi par des actes et des miracles qui confirmaient que Dieu les soutenait, que Dieu était avec eux dans leur démarche. Et puis, paf, bardaf, dénoncé, mis à nu, battu, jeté dans les ténèbres d'un cachot, infect et relégué au même rang que les voleurs et les criminels. Tout bascule en un rien de temps. Pourtant, pour ces quatre croyants, croyantes, le basculement de leur vie du jour au lendemain ne va pas les plonger dans la déprime. Élisabeth, on aurait pu dire, que vont penser les autres? Je suis trop vieille et je suis tombée enceinte. Mon mari est sacrificateur. Que vont dire les paroissiens du temple? Marie, que vont dire les autres? Je suis trop jeune, je suis tombée enceinte. Que va dire Joseph, mon fiancé, qui ne m'a pas touchée? Et sa famille, pour qui ou pourquoi? Pourquoi vont-elles ou vont-ils me prendre? Paul, que vont penser les autres? Ceux à qui j'ai parlé, témoigné de la puissance de Jésus et du message de vie, me voilà en prison. Et Silas, que vont penser les autres? Il se laisse embarquer par l'apôtre là. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça dans leurs paroles. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et reconnaît la bénédiction de Dieu. Elle s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui sont dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Marie exalte le Seigneur. Elle est remplie de joie. Paul et Silas chantent et prient. Rien. Pourtant, aucun des quatre n'est responsable de la situation. Ils n'ont pas cherché. Ils sont là, plantés, victimes. Ce qui arrive à Élisabeth est trop tard. Ce qui arrive à Marie est trop tôt. Ben, oui. Et ce qui arrive à Paul et Silas, c'est trop injuste. Hein. Alors, que dire de la volonté de Dieu? Trop tard? Trop tôt? Injuste? Moi, je pense qu'elle est toujours là au bon moment. Dieu ni trop tôt, ni trop tard, ni trop injuste. Mais nous, alors, que penser? J'ai mis comment aurions-nous réagi? J'aimerais dire comment j'aurais réagi, et que chacun se pose la question, comment est-ce qu'on aurait réagi, comment est-ce qu'on aurait été, comment est-ce qu'on deviendrait peut-être, si ça nous arrivait, la volonté de Dieu qui tombe comme ça. Il paraît que nous poser la question, c'est déjà y répondre. Je préfère moins être affirmatif et dire que c'est peut-être déjà penser à se préparer. Si notre connaissance, notre Dieu et Père est suffisante, on n'a pas à se tracasser. Du jour au lendemain, boum, il peut nous prendre. Marie et Élisabeth étaient juives et ancrées dans leurs convictions. Et si je peux être certain de cela, c'est par leur comportement. Elles avaient des comportements exemplaires. Et c'est ce que je vois, ce que je constate. Et Luc 1, 5, 6, il nous est dit, « Pour Élisabeth, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. » Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça se voit. Et pour Marie, le passage que nous avons lu et qu'elle a prononcé elle-même nous montre sa connaissance profonde de l'Ancien Testament, vu qu'il y a au moins 8 références à l'Ancien Testament dans son Magnificat. Quant à Paul et Silas, c'est leur calme. Ils sont en prison, ils n'ont rien fait. Ils sont là, confiants. C'est un peu ça quand même qui nous déroute. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. Nous avons quand même vu aussi, pendant le culte de l'Église persécutée, le calme parfois qui règne dans ces chrétiens persécutés, ces chrétiens afghans, parce qu'ils se sont nourris de la parole de Dieu. Rien ne peut nous enrichir mieux que de lire, méditer, digérer la parole de Dieu, la nourriture spirituelle de notre Seigneur. Et dans cette période dite de l'Avent, nous pourrions aussi regarder autour de nous. Il est mieux quand même de regarder à Dieu. Et c'est avec ça qu'on peut tenir le coup. Nous devons plonger nos regards dans les promesses de Dieu, les promesses qui vont s'accomplir. C'est l'annonce de Zacharie et Marie, à Marie, pardon, par les anges qui renouvellent leur espoir de délivrance et leur espérance de paix. Et pour nos deux prisonniers, c'est le bruit du tremblement de terre et l'ouverture des portes qui renouvellent leur perspective d'avenir. Si nous espérons dans un monde meilleur, sachons peut-être écouter la douceur des anges annonciateurs, ou peut-être le brouhaha du tremblement de terre, de la main de Dieu sur notre monde. Sachons écouter peut-être, discerner ces signes. Peut-être que les crises que nous passons et l'horreur de la guerre seraient certainement insupportables si on n'avait pas cette promesse. Combien de personnes se disent « Oh, c'est pas possible, combien de suicides de jeunes, combien de personnes en déprime à cause de ces crises ?» Nous devons nous encourager par les promesses que Dieu nous a faites. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes dans l'attente du retour de Christ et il revient bientôt. Bientôt. Souvenez, bientôt. Parfois trop long. Mais pour Élisabeth, Marie, Paul et Silas et bien d'autres, ils étaient dans l'attente d'un accomplissement de promesses annoncées. Dieu avait dit. Et être dans l'attente, c'est être prêt à tout moment, c'est être sur le pied de guerre, c'est être disponible, prêt à partir ou à agir. Tel un peu les Israélites au sortir du pays d'Égypte, qui avaient à leur taille la ceinture, avaient les souliers aux pieds, le bâton à la main. Et cette nuit-là, avant de sortir du pays d'Égypte, l'Éternel est passé et a fait le tri entre les enfants d'Israël et les Égyptiens par le sang qu'il était sur les lintes des portes. Et j'aimerais juste vous lire deux versets qui m'ont frappé dans cette période d'attente, parce qu'ils ont attendu avant de partir, pas longtemps, mais ils ont attendu avant de partir et d'être délivrés d'esclavage. Voilà ce qu'il nous est dit dans Exode 11, 6, 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura point de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et pas même un chien ne murmura sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Dans l'attente, Dieu fait la différence. Dans cette période, c'est Dieu qui fait le tri. Et cette attente devrait devenir une force qui devrait nous accompagner toute l'année, pas seulement qu'à des fêtes. Pas seulement aux périodes de l'Avent ou de Carême ou tout autre événement. Les grandes fêtes religieuses n'ont pas été données par hasard. Elles sont vraiment importantes parce qu'elles font partie de l'histoire de Dieu. Pâques, Ascension, Pentecôte et évidemment Noël nous montrent ce qui est le plus essentiel pour finir et ultimement ce qui va arriver. Pourtant, hélas, fort de constater que combien est devenu banal. Banal, les fêtes et les jours fériés. Noël, la magie de Noël. Ah oui, il faut penser à la dinde, il faut penser à ça. Le reste, le contenu et la tournure de sécularisation de cette période de l'Avent n'y échappe pas. Bien que le monde veuille garder un petit peu l'esprit de Noël, on entend un petit peu l'esprit de Noël, mais quelle est la profondeur de cette attente ? Est-ce qu'elle n'est pas seulement superficielle ? Oh, c'est une belle période de fête, oui. On est quand même en crise, mais bon, on met auparavant. Le fond de la célébration de la nativité est quand même réduit au tape à l'œil. Il faut le reconnaître. Si Élisabeth, Marie, Paul et Silas ne s'étaient contentés que de subir cette attente de délivrance et de réduire les promesses de Dieu qu'à peau de chagrin, le christianisme dont nous faisons partie ne serait peut-être rien. Peut-être qu'une bonne philosophie, mais encore. Mais Élisabeth et Marie ont accouché Et Paul et Silas sont sortis libres de la prison. Et l'histoire de Dieu s'est transformée, s'est propagée, s'est développée jusqu'à nous atteindre. Quelle joie. Et pourtant, bien des gens veulent ignorer ces événements qui ont bouleversé la face du monde. Je dis, la naissance de Jésus a quand même bouleversé le calendrier. Que c'est parfois tragique que d'entendre parler que de grands événements et de grandes vérités sans les laisser l'occasion de pénétrer réellement nos cœurs et nos pensées et de nous laisser subjuguer par, ça, par leur puissance parfois aujourd'hui. C'est banal. Et en faisant ce message, je me suis rappelé qu'il y a 15 jours, bon, en présentant les bougies de l'Avent et en proposant une proposition de livre de méditation pour chaque jour de jusqu'à Noël, j'ai dit que je ne suivais pas vraiment cette tradition. Et je la regrette. Je regrette d'avoir été parmi ceux qui sont peut-être fatigués de voir ces calendriers de l'Avent. Attendre un enfant est très fort pour une maman, pour un papa, qu'il désire. Attendre la fin d'un emprisonnement à tort doit donner du punch à celui qui est emprisonné. Attendre le grand jour de quelque événement, tel un mariage, un anniversaire, ou une retraite, par exemple, doit se vivre avec intensité. C'est pas possible. Il y a la préparation. Et je me souviens des derniers jours de mon service militaire, quelques années. La démo. Enfin, un mètre ruban, et tous les jours, on dirait, on espérait, on fait, oh, il fallait y arriver, quoi. On attendait avec une ardente puissance la fin. Je n'endormais presque plus parfois. Mais il fallait que ça cesse. Alors si cette période de l'Avent doit être vécue, elle doit l'être de la même manière, avec tout notre cœur tout entier, avec nos lectures quotidiennes, avec nos préparations de la fête peut-être, mais qu'en est-il aussi de notre attente du Seigneur, du retour ? Oui, on prépare Noël, oui, on attend un jour. Mais notre attente de notre Seigneur, est-ce que nous sommes dans les starting blocks en attendant le coup de feu du départ, de la course où nous sommes peut-être toujours dans les vestiaires à s'habiller? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on se prépare, oui, pour l'Avent, pour Noël? Est-ce qu'on se prépare aussi pour le retour de notre Seigneur? Sommes-nous de ceux qui se laisseront secouer, quel que soit notre âge? Pas dire je suis trop vieux, non, non. Est-ce qu'on va se laisser secouer par la main puissante de notre Seigneur? Souvent on dit, oh, le meilleur est devant nous. On entend souvent ça, dire, ah. Et c'est souvent des gens qui ont beaucoup souffert qui disent ça, oh, le meilleur est devant nous. Mais je pense que cette devise devrait être celle des enfants de Dieu, au sens complet du terme. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qu'il revient bientôt. Jésus lui-même le déclare dans l'Apocalypse. Je l'ai rappelé. Et voici ce que déclare aussi le prophète Osée, bien avant notre ère. Osée 6, les trois premiers versets. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons. Connaissons et cherchons à connaître, à peut-être à reconnaître, recherchons encore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu est le Dieu de la délivrance certaine. Le 25 décembre arrivera certainement. C'est bientôt. On est bien d'accord que ce n'est pas ce jour-là que Jésus est né. Hein, d'accord, hein. Ce n'est pas vraiment Noël, hein, mais c'est quand même le symbole. Et si Noël peut avoir lieu encore cette année, c'est parce que Jésus est vraiment né. Il est vraiment venu. Il s'est vraiment incarné en l'homme. Il a vraiment cheminé dans la vie terrestre. Et si nous pouvons espérer de toutes nos forces son retour, c'est parce qu'il est vraiment Dieu. S'il n'était qu'un homme, on l'aurait peut-être oublié ou pas. Mais il est vraiment Dieu. Si Élisabeth, Marie, Paul et Silas ont permis que Dieu s'invite dans leur vie, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'il était vraiment Dieu et qu'il ferait ce qu'il dit et qu'ils ont accepté de le suivre. Pour nous qui sommes dans l'attente de son retour, ce qui est à venir doit frapper nos consciences. à tel point que notre foi devrait déplacer de montagne. Ma foi devrait déplacer de montagne. Le sentiment qui devrait nous animer ne peut être décrit. On devrait. Je parle au conditionnel. Je devrais déplacer de montagne. L'attente du royaume de Dieu devrait nous envahir et devrait nous faire tressaillir de joie, comme Marie qui exalte le Seigneur, comme Élisabeth qui se met en marche pour aller rejoindre sa cousine, comme Paul et Silas qui communiquent la parole de Dieu au point de convertir toute la maisonnée du geôlier. Ce qui est à venir pour le chrétien est d'une grande joie, et ce qui attend le monde, quand il arrivera, est d'une très grande importance. Le monde, si ne se tracasse pas, sera en cause. Mais la vraie grandeur de Christ est certainement dans sa venue. Sans cet aboutissement final, la foi chrétienne ne sert à rien. On n'espère en rien. On n'aurait aucun sens. Ce ne serait rien du tout. Alors, en voyant ce qui nous entoure, ce qui se passe dans le monde, les crises successives, les guerres, les catastrophes naturelles ou pas, notre espérance devrait être alimentée par cette promesse de sa venue, que notre période de l'avant nous serve de tremplin pour être dans cette attente permanente de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Même si, comme Élisabeth, Marie, Paul et Silas, nous avons pour l'instant l'impression de subir la volonté de Dieu. Et pour terminer, je laisserai la conclusion à un texte au pasteur Hébrard dans une méditation de l'avant. Voilà ce qu'il nous dit. Que nos mains puissent se tendre vers ce qui est à venir, afin que, enfin le monde soit racheté de ses horreurs et que l'aube du jour nouveau puisse poindre. Nous sommes sur cette terre pour proclamer ce message du sein des ténèbres les plus épaisses. L'étoile du matin s'est levée dans mon cœur, dans nos cœurs. Bientôt, elle se lèvera sur les ténèbres du monde entier. Repentez-vous, croyez en l'Évangile, celui qui vient est proche. Amen.